L'État rappelle l'aide financière engagée en Nouvelle-Calédonie, un total de 30 milliards de francs, dont 12 sous forme d'avances remboursables qui seront versées à la fin du mois. Comment les banques répondent aux attentes des chefs d'entreprise? 160 d'entre eux ont participé ce matin au rendez-vous de l'économie organisé par la CCI. Nouvelle conséquence des émeutes, Musical Production a annoncé ce matin l'annulation de l'édition 2024 des Francopholies. En métropole, Emmanuel Macron au fort de Brégançon. Pas vraiment de vacances pour le chef de l'État qui va devoir faire le choix de son nouveau Premier ministre. Un nouvel acte de sabotage coordonné après la SNCF, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui ont été ciblés. Et puis en sport, les sportifs français ont décroché cette nuit 8 nouvelles médailles, dont 2 en or au JO. La nageuse calédonienne Emma Terebo s'est-elle qualifiée pour la finale du 100 mètres d'eau? Déception pour Yolaine Yengo et l'équipe de France de rugby à 7 féminine, éliminée en quart de finale par les Canadiennes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un autre regard sur la crise que connaît la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que vous nous proposerez, Gilles Ménage, dans le magazine Citoyen, retrouvé dès la fin de ce journal.
Oui, bonjour Jean-François. Quel regard portent les artistes sur la situation insurrectionnelle et la crise qu'elle génère, et pas seulement, peut-être même pas du tout au niveau économique? Ce sont en effet des écrivains, des artistes que nous allons recevoir ce midi dans ce magazine. Nous serons en compagnie de Nicolas Turtovitch, du chorégraphe Stanka Barlouette, de la peintre Caroline de Groisel et du comédien Simon. Un autre regard sur la crise, ce sera juste après votre journal.
Commençons cette édition par un mot sur la situation sur le terrain qui reste plutôt calme, pas d'exaction majeure à signaler. La circulation est fluide dans le Grand Nouméa. Ce matin, toutefois, des branchages ont été signalés dans le col de la pirogue. La situation reste inchangée au Mont d'Or. La RP1 est toujours coupée à la hauteur de la tribu de Saint-Louis. Et puis, on nous signale dans le col de Winané des branchages incendiés qui jonchent la route et qui sont peu visibles. Faites donc attention et soyez prudents si vous circulez dans le secteur. Dans un communiqué, le Haut-Commissariat rappelle que face à la crise survenue le 13 mai dernier, l'État a apporté une aide totale de 30 milliards, dont 12 sous forme d'avances remboursables versées à la fin du mois, Nicolas Legrand.
Oui, ce sont les fameux 12 milliards de francs qui ont été votés d'ailleurs au budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie par le Congrès dernièrement. Ils ont été versés sur le compte de la Nouvelle-Calédonie pour aider à la fois les différentes collectivités, la CAFAT, la CLR et Enercal. Et concernant le fournisseur d'électricité, justement, l'enveloppe se monte à 1,7 milliard pour éviter la cessation imminente de paiement. L'État indique que cette aide exceptionnelle va permettre à l'entreprise d'assurer son fonctionnement et ainsi de permettre la fourniture en électricité durant les mois qui viennent, le temps que des réformes en cours d'adoption lui assurent un fonctionnement pérenne. De son côté, par ailleurs, la Banque des Territoires a octroyé un prêt de 50 millions d'euros à la Nouvelle-Calédonie, soit 6 milliards de francs. Ce prêt a pour vocation de financer des opérations d'investissement, en particulier dans les infrastructures, fournissant ainsi un appui crucial à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Cette aide conjointe doit permettre de, je cite, « répondre aux défis économiques immédiats, à accélérer la reconstruction et à promouvoir une reprise durable ». Dans ce communiqué conjoint, l'État et la Banque des Territoires indiquent qu'avec l'effondrement des recettes fiscales, la Nouvelle-Calédonie se trouve aujourd'hui dans une situation financière critique, nécessitant la mobilisation urgente de financements externes pour engager, je cite toujours, sans tarder, les travaux de reconstruction.
Et plus de 160 chefs d'entreprise ont répondu présents ce matin au rendez-vous de l'économie organisé par la CCI. Il portait sur le thème des moyens bancaires mis à disposition des entreprises en difficulté, Isabelle Pelletier.
Oui, durant plus d'une heure et demie, les entrepreneurs ont pu poser directement leurs questions aux représentants des 4 banques du territoire, à l'AFD, à la Direction des impôts et à la Fédération bancaire française de Nouvelle-Calédonie. Les problématiques avancées étaient aussi variées que le panel des entreprises présentes, avec toutefois un dénominateur commun, celui de la trésorerie pour ces entrepreneurs mis en difficulté par les émeutes déclenchées le 13 mai dernier. Lionel Wolf est le directeur général de BNP Paribas, en charge de la Fédération bancaire française de Nouvelle-Calédonie.
Les questions qui sont revenues le plus souvent, elles ont trait aux besoins de trésorerie des entreprises, puisque beaucoup ont été sinistrés. Donc on leur a expliqué les différents dispositifs qui ont été mis en place avec le support de la SOGEFOM, le support de l'État. Mais il va de soi que chaque situation est spécifique. Et donc on recommande à tous nos clients d'aller voir leur chargé d'affaires pour pouvoir discuter avec eux, leur expliquer la situation, la façon dont ils voient les choses et comment la banque peut intervenir par rapport à une situation existante et par rapport à la projection qui pourrait être faite.
Les banques présentes ont aussi parfois dû tordre le cou à certaines idées reçues. Non, le banquier ne peut pas tout, ont-ils martelé. Et les banques sont des entreprises privées qui ont, elles aussi, des comptes à rendre.
Le rôle de la banque, c'est d'accompagner ses clients et de faire en sorte qu'on puisse répondre à leurs demandes. Pas toujours favorablement et pas toujours de la façon dont ils le souhaiteraient, puisqu'on est responsable du risque qu'on prend. on doit rendre compte aussi aux régulateurs de la façon dont on gère la relation client et ce qu'on met à disposition de nos clients. Mais les banques n'ont pas toutes les réponses à toutes les questions de leurs clients. Le tissu bancaire en Calédonie est très solide, oui. Les banques calédoniennes sont adossées à des groupes forts et le système bancaire calédonien est bien géré, bien structuré et bien réglementé.
Julien Perrotto a un statut de micro-entrepreneur dans les domaines de la formation et de l'informatique. Les mois de mai et juin sont normalement synonymes de grosses activités pour lui. L'insurrection du 13 mai est donc venue fragiliser un peu plus son activité. Pour lui, ce rendez-vous était l'occasion d'avoir des réponses en direct, car exprime-t-il, ce n'est pas toujours si simple d'obtenir un rendez-vous avec son chargé d'affaires.
Je suis content d'être là parce qu'en fait, souvent il y a des intermédiaires entre notre conseiller. Là, on a eu la chance de parler avec les directeurs de la banque et on peut directement poser des questions. Même les conseillers, enfin, dans la gestion de la crise, on voit bien que eux aussi ont des problématiques d'avoir les bonnes informations à nous retransmettre. Et en l'espace de 15 jours, des fois, ils reviennent un peu sur des choses qu'ils auraient pu nous indiquer pour faire différemment, pour. Et c'est vrai que bon, des fois c'est un peu compliqué, comme certaines personnes ont pu le dire aussi, d'avoir pu avoir un contact avec notre conseiller en direct rapidement pour éviter l'hémorragie financière, répondre au mieux à nos besoins, déclencher les aides au plus rapide et pouvoir arriver à s'en sortir en fait, tout simplement.
Autre point apprécié par Julien, la mixité des profils présents où les grosses sociétés côtoient de petites entreprises comme la sienne. La Chambre de commerce et d'industrie a multiplié les rendez-vous de l'économie et les matinales en ce mois de juillet afin de répondre au mieux aux inquiétudes et aux difficultés du tissu économique. Avant ce rendez-vous consacré aux moyens bancaires, le rendez-vous précédent concernait le domaine des assurances.
Un mot sur le prix des carburants qui va rester plutôt stable au mois d'août. L'essence baissera de 1,60 € le litre et affichera donc 167 francs à la pompe. Le gazole va lui, quant à lui, connaître une hausse de 90 centimes le litre et il sera vendu à partir du 1er août 149,50 €.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Après l'assouplissement du couvre-feu qui débute désormais à 22h, faut-il, selon vous, autoriser les cavistes à rouvrir? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'avec le licenciement annoncé de ses 1200 salariés, KNS n'a plus d'avenir. Ils sont 11% à penser que malgré la situation, KNS a encore un avenir. Il est 11h et bientôt 39 minutes, une première pause dans ce journal. Nous parlerons ensuite de la situation au niveau du monde de la santé. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La Nouvelle-Calédonie souffre du manque de soignants. La situation pourrait devenir critique d'ici 3-4 mois, selon le docteur Thierry de Grélan. Il était ce matin notre invité à 7h30, Nicolas Legrand.
Oui, effectivement, plusieurs personnels du corps médical ont décidé de quitter le territoire pour des raisons d'insécurité. À terme, le Medipôle devrait enregistrer un déficit de 33 médecins, ce qui veut dire des fermetures de lits, voire même de services. Il est évidemment difficile de recruter en raison du climat insurrectionnel que connaît le territoire, que ce soit des médecins étrangers ou métropolitains. Le CHT a donc dû s'organiser pour faire face. Écoutez le docteur Thierry de Grélan, il est le président du comité médical d'établissement.
En Nouvelle-Calédonie, on a recruté par exemple des médecins qui avaient perdu leur cabinet ou qui étaient vraiment dans une impasse. On a fait parce qu'on en avait besoin aussi, tout simplement. Trois médecins libéraux qui travaillent chez nous en ce moment. On va recruter des sages-femmes probablement et on sera très content de les faire venir parce qu'il y a un gros problème au niveau des sages-femmes aussi. Donc déjà, il y a un bassin de recrutement possible sur le territoire, transitoire. Ensuite, la réserve sanitaire, ce n'est pas une solution pérenne. Les gens de la réserve sanitaire viennent pour 3 semaines. Donc, trois semaines, ce n'est pas une solution. Mais neuf mois pour embaucher un médecin, donc trois semaines pour aller jusqu'à neuf mois, il nous en faut quand même. Et en plus, elle est à la charge du CHT, je tiens à le préciser. On a eu des devis hein, de réserve sanitaire, ça coûte très cher. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant sur la réserve sanitaire ou alors pour passer un cap vraiment aigu.
La réserve sanitaire avait été envoyée au moment du Covid. Elle avait été prise en charge par qui
Alors, par l'État.
Voilà, donc ça peut être une piste éventuellement.
Ah, ce serait une merveilleuse piste, oui, parce que les finances de l'hôpital ne permettront pas de payer la réserve sanitaire.
Et le système de santé calédonien qui est donc fragilisé par les importantes difficultés budgétaires du territoire. Le déficit du CHT est aujourd'hui de 32 milliards de francs, ce qui le rend encore moins attractif.
La CAFAT nous a annoncé au conseil d'administration la semaine dernière qu'elle raclait les fonds de tiroir, c'est l'expression du président du conseil d'administration pour nous payer le mois de juillet. Que le mois d'août était problématique et qu'après, on n'avait pas de visibilité. Alors, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu autrefois. Je salue le membre du gouvernement en charge de la santé qui a sécurisé notre budget pendant deux ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Très clairement, on ne peut pas travailler en ne sachant pas si on va être payé. Hein. Enfin, là, les médecins, ils n'auront pas de problème pour trouver du boulot ailleurs dans le monde, et surtout en métropole. Je ne vois pas comment on va les garder. On va essayer de faire des économies. C'est notre responsabilité aujourd'hui pour demander le moins possible. Je pense que c'est ce que l'État français attend. Je ne veux pas que les gens qui m'écoutent aient un sentiment de désespoir. On va tenir cet hôpital le plus possible, hein, même si ça va être vraiment compliqué. Je pense qu'on ne l'a pas dit avec autant d'inquiétude pendant le Covid. On est vraiment dans une crise inédite. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'aide.
Le docteur Thierry de Gréland qui était notre invité ce matin à 7h30, une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc. Il a rappelé au cours de cet entretien qu'il était essentiel que même dans ces temps difficiles, les Calédoniens continuent de se faire soigner. Aujourd'hui, plusieurs patients hésitent à se rendre à l'hôpital et risquent plus tard de décompenser et d'entraîner donc une crise sanitaire encore plus aiguë dans les mois qui viennent.
La SIC et la Calédonienne des Eaux se rapprochent de leurs administrés. Ce matin, à la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer, une permanence était proposée pour que les habitants puissent payer leurs factures ou faire de nouvelles demandes d'aide. Une proximité qui arrange ses habitants.
Je suis venue juste payer ma facture, toujours dans mon quartier, et je suis très satisfaite. Merci parce qu'ils se sont déplacés déjà pour nous arranger. Ça nous arrange, vu qu'il n'y a plus de cas, on ne travaille pas. Ben, ça nous arrange et merci beaucoup de se déplacer déjà. Et ben, on est content de leur service.
Ben, je suis venu voir la SIC pour négocier un peu pour les loyers, comme on a perdu notre travail, ma femme et moi. Voilà. Donc, plus de boulot, un peu de difficulté pour payer le loyer, quoi. Ça fait depuis la fin des émeutes, là, c'est-à-dire fin mai. Bah, évidemment, oui, on était mis au chômage total, donc complètement sans ressources, ça va être compliqué. Je ne sais pas, on va trouver un arrangement, un échelonnement sur les loyers pour le temps de retrouver un travail, mais bon, ça va être compliqué.
C'est la première permanence décentralisée de ce type, mais cette opération pourrait être amenée à être renouvelée. D'autres rendez-vous vont en effet être mis en place un peu partout dans le Grand Nouméa, au moins une fois par mois. Alexandre Miro est le directeur de la SIC Magenta.
La SIC est en train de redéployer la proximité sur l'ensemble du Nouméa, du Grand Nouméa et même de l'extérieur, en déployant des permanences mutualisées avec des partenaires, notamment sur le Mont d'Or, Vallon d'Or Sud, sur Boulary, sur la zone Couture-Auteuil, sur la zone de Ducos, sur la zone de Dumbéa, sur la zone de Païta et également sur Boulou-Paris, La Foy. Voilà, pour continuer d'apporter un service à l'ensemble des locataires ou à une grande majorité de locataires de la SIC.
Et dans les prochains jours, une partie de la SIC devrait s'installer à Boulary, dans les locaux de l'OPT, pour proposer plus de proximité aux administrés. Et puis l'édition de 2024 des Francopholies est annulée. La décision a été prise par Musical Productions en raison de la situation difficile dans laquelle se trouve aujourd'hui le territoire. La manifestation qui aurait dû se tenir au Centre culturel Djibaou en septembre prochain avait déjà été annulée l'an dernier en raison d'une mauvaise condition météo. Un nouveau coup dur, nous a dit le directeur des Francopholies, Christa Théossian.
Parce que les conditions de bonne tenue du festival n'étaient pas réunies du tout. Vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était quand même plus raisonnable d'annuler. Malheureusement, on était vraiment contraints de le faire et on est hyper déçus. C'est quand même plus d'un an de travail pour arriver à ça, mais bon. Entre l'année dernière où on a dû annuler pour cause de mauvais temps et cette année, avec toutes les exactions, c'était un peu compliqué là de mener cette édition. On avait fait une pré-vente sans annoncer les artistes. On avait Zao de Sagazan, Deluxe, Skip the Use, Kiken Jafakoli et Josman. Normalement, on devait annoncer tout ça au mois de mai, mais vu ce qui s'est passé, on a attendu vraiment le dernier moment pour dire qu'on allait pouvoir maintenir cette édition. Mais là, on est fin juillet, on croit que même si ça commence un tout petit peu à s'améliorer, tout n'est pas réuni en termes de sécurité pour qu'on puisse faire le festival dans des meilleures conditions, quoi. Bien sûr, on va rembourser tout le monde, que ce soit d'ailleurs pour les Francofolies, puis d'autres spectacles qu'on avait menés avec Laura Lone et puis le report de Frangeau. Donc voilà, on tient bien sûr à rembourser tout le monde. Après, ceux qui veulent nous soutenir peuvent ne pas se faire rembourser, peuvent écrire en tout cas à la billetterie pour nous laisser les billets. Ça nous aiderait bien dans ces moments difficiles.
Voilà, les procédures de remboursement peuvent se faire via le site ticket.nc. 11h46, une nouvelle pause. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu.
Derrière nos agents, des clients comme vous, au service de la même exigence. Rendez-vous sur notre nouveau site office.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Jean-François Baudin.
Et on commence par l'actualité en métropole. Emmanuel Macron a rejoint la résidence d'été des présidents de la République. Il est au fort de Brégançon, dans le Var, pour quelques jours, après une séquence plutôt intense qui s'est ouverte avec la dissolution de l'Assemblée nationale et qui vient de se refermer avec la cérémonie d'ouverture des JO. Le chef de l'État est au vert, mais il va évidemment réfléchir aux lourdes échéances qui l'attendent, notamment la nomination de son nouveau Premier ministre qui devrait intervenir dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Et une seule certitude à ce stade, cela ne devrait pas être une personnalité issue du camp présidentiel. C'est en tout cas ce qu'ont plaidé plusieurs cadres de la Macronie la semaine dernière en réunion de groupe, comme pour montrer que la majorité sortante avait acté la nécessité de changement exprimé par les Français dans les urnes. Alors si à gauche, Lucie Castet s'affiche sur le terrain pour tenter de mettre la pression au chef de l'État, celui-ci a déjà quasiment écarté cette hypothèse, estimant que le nouveau Front populaire n'avait pas de majorité pour gouverner. Emmanuel Macron, qui a mis la vie politique sur pause depuis le début de ces JO, il continuera à les suivre depuis Brégançon, sans s'interdire de possibles allers-retours à Paris pour assister à une ou deux épreuves. En attendant, le président laisse la situation se décanter et étudie tous les profils susceptibles de diriger une grande coalition qui irait de la droite républicaine à certains députés socialistes. Ce matin, interrogé par nos confrères de France 2, Gérald Darmanin évoque Xavier Bertrand comme étant, je cite, « un homme politique de très grande compétence », appuyant ainsi l'hypothèse d'un Premier ministre issu du centre droit.
Un nouvel acte de sabotage, le deuxième en quelques jours après celui qui a touché simultanément des postes de signalisation de la SNCF. Une nouvelle action coordonnée qui a cette fois-ci visé plusieurs opérateurs de téléphonie. Des actes de vandalisme et de sabotage qui ont eu lieu dans plusieurs départements simultanément. Tiffaine Dubuard.
Des fourreaux de câbles sectionnés nets, probablement à l'aide d'une disqueuse ou d'un outil similaire. Au total, selon SFR, 5 points du réseau ont été ciblés sur 5 départements différents. Tout ça entre 1h et 3h du matin. Résultat, 9 départements dont les Bouches-du-Rhône et l'Oise touchés. Des sabotages simultanés donc, qui laissent penser à une action coordonnée et très bien préparée pour Vincent Brouette, professeur spécialiste de la sécurité des systèmes d'information à Catch Business School.
Les réseaux sont pas ouverts à tout vent. C'est sécurisé. Le réseau est supervisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des équipes. Disons qu'il faut connaître le terrain, il faut connaître l'endroit et il faut connaître la manière de faire. Donc, c'est pas le premier venu qui peut commettre ce genre d'acte. Il faut forcément avoir les connaissances techniques, avoir la connaissance du terrain pour aller cibler justement des endroits aussi spécifiques.
Des similitudes avec les actes ciblant plusieurs postes d'aiguillage de la SNCF vendredi. Pour l'heure, aucune revendication, mais une enquête vient d'être ouverte pour dégradation commise sur des dispositifs de relais de télécommunication.
Le trafic SNCF, lui, a pu reprendre normalement. Les réparations ont été effectuées sur les câbles de signalisation brûlés. Mais l'enquête se poursuit et elle devra aboutir, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Nous avons identifié un certain nombre de profils de personnes qui auraient pu commettre ces sabotages très volontaires, très ciblés aussi. C'est le mode traditionnel d'action de l'ultra-gauche, on l'a vu précédemment. Je ne voudrais pas trop avancer, puisque la question de savoir si ces personnes ont été manipulées par d'autres personnes ou est-ce que c'est pour leur propre compte? En tout cas, nous avançons très bien et nous trouverons les personnes qui ont fait ça.
La métropole qui affronte sa première vague de chaleur de l'été. 41 départements sont en alerte orange. Demain matin, ils seront 45 à être placés en alerte. À Paris, les athlètes vont souffrir puisqu'on annonce des températures pouvant atteindre les 35 degrés. Une vague de chaleur qui a provoqué un drame dans l'Aude. Une fillette de 2 ans est morte alors que son grand-père l'avait laissée dormir dans la voiture. Il était placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. Autre drame à l'étranger cette fois-ci. 2 enfants ont été poignardés à mort dans un parc pour enfants à Southport, près de Liverpool. L'assaillant, un jeune homme qui a été arrêté, a aussi blessé 11 personnes, dont 6 sont toujours hospitalisées. Même si on ne connaît pas ses motivations, la piste terroriste semble pour l'instant écartée par les enquêteurs. En Israël, Benjamin Netanyahou s'est rendu sur le Golan, dans le nord du pays. Plus précisément à Majdal Shams, le visage visé il y a 2 jours par une roquette du Hezbollah tirée depuis le Liban Sud et qui a tué 12 enfants et adolescents. Le Premier ministre israélien l'a redit, pas question de se laisser intimider par le Hezbollah. Alban Le Prince pour Europe 1.
2 jours après l'attaque de roquettes qui a tué 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans qui jouaient au football, Benjamin Netanyahou s'est rendu aujourd'hui à Majdal Shams pour déposer une gerbe dans le stade, théâtre de cette frappe meurtrière. Ces enfants sont nos enfants, l'État d'Israël ne laissera pas et ne peut pas laisser passer cela, a déclaré le Premier ministre israélien qui a tenté, malgré les huées de plusieurs dizaines de personnes, de rassurer la communauté druze majoritaire dans la ville de 11 000 habitants. Israël se tiendra aujourd'hui, demain et pour toujours à vos côtés, a-t-il déclaré, promettant une nouvelle fois une réponse sévère. On ne connaît ni la date ni l'ampleur qu'elle aura. Benjamin Netanyahou est le seul décisionnaire. De son côté, l'Iran a mis en garde l'État hébreu contre les conséquences d'une telle riposte.
Il est 11h52. Dans un instant, le sport et une très belle journée pour les athlètes français au JO. Une déception, malheureusement, pour Yolène Niengo et les joueuses de l'équipe de France de rugby à 7 éliminées en quart de finale de la compétition.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Cafard, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
Mazda informe son aimable clientèle de l'ouverture de la concession de 8h à 15h à Magenta, rue Auguste Bénébigue. Arrivage récent du nouveau Mazda CX-90, un autre monde, une autre dimension.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Et avant de retrouver Jean-François Baudin, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Une page sport archi-dominée évidemment par les JO.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Belle journée pour les Français au JO, mais on va commencer, Léo Fichou, par une déception ce matin, l'élimination des joueuses de l'équipe de France de rugby à 7.
Eh oui, les vice-championnes olympiques, on attendait effectivement mieux d'elles, des joueuses de l'équipe de France. Mais ce matin, malgré l'essai inscrit par Yolène Niengo en seconde période, les tricolores se sont inclinés en quart de finale du tournoi olympique contre le Canada. Une défaite 14 à 19. Pierre Forest, vice-président de la Ligue calédonienne de rugby, est très déçu de ce résultat.
On est très déçu par ce résultat, surtout en quart de finale. C'est vrai que les matchs de poule que les filles ont eu à disputer n'étaient pas d'un niveau très relevé. Et même là, sur le quart de finale, contre une équipe du Canada qui n'est quand même pas des foudres de guerre, je pense que le match, on l'avait, et ça nous a échappé sur les 2 dernières minutes. Donc oui, déçu, très déçu, parce qu'on s'attendait à mieux de cette équipe. Et puis là, se faire sortir en quart de finale, évidemment, c'est très décevant et surtout déçu pour Yolène, pour la calédonienne de l'équipe de France. Oui.
Les Bleus disputeront tout de même des matchs de classement la nuit prochaine. Elles affrontent d'abord l'Irlande à minuit pour terminer au mieux à la 5e place.
Déception pour Yolène Niengo. En revanche, bonne nouvelle en natation cette fois-ci. Emma Terebo est qualifiée pour la finale.
Oui, qualifiée pour la finale du 100 mètres d'eau. Elle a réalisé ce matin le 8e temps des demi-finales en 59 secondes 50. Elle sera accompagnée en finale d'une autre Française, Beryl Castaldello. Pour sa première participation aux Jeux Olympiques, la nageuse est forcément ravie.
Le bonheur total, franchement, on est bonheur trop partagé. Heureuse. Ouais, voilà, c'est ça. 2 fois plus en finale, 2 fois plus heureuse. Voilà. C'est moins rapide que ce matin, mais en même temps, les nerfs, quoi. Enfin, c'est une demi-finale olympique. J'étais plus stressée que ce matin et ça s'est senti. Et je vais directement apprendre de ça pour demain. Et puis voilà. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. Vraiment, une finale olympique, c'est déjà rare, mais une finale olympique devant un public français, c'est une fois dans sa vie. Donc on kiffe, voilà.
Le public était nombreux du coup à Paris mais aussi en Nouvelle-Calédonie ce matin pour suivre la demi-finale des Materebo. Quelques courageux se sont levés tôt et ont bravé le froid. Ils étaient réunis au snack au Faré du CNC. Après le stress, c'est la fierté qui prime pour Chloé, une amie de la nageuse calédonienne.
Bah, on est tous hyper contents, ça représente les couleurs du club et de la Calédonie, donc on espère que demain elle pourra accéder au podium. Assez stressée parce que le départ était pas terrible et elle s'est bien rattrapée sur la suite. Donc franchement, c'est cool et ça fait des bonnes émotions.
La finale du 100 mètres d'eau des Materebo aura lieu demain à 5h56, juste après la demi-finale de Maxime Grousset sur le 100 mètres nage libre.
Allez, on va faire un point sur les autres disciplines. On va commencer par l'escrime, Léo, et on a eu droit ce matin notamment à une finale 100% française.
En sabre, oui, Manon Apiti-Brunet et Sarah Balzer ont offert à la France un moment unique au Grand Palais, médaillée de bronze au JO de Tokyo. Manon Apiti-Brunet s'est finalement imposée 15 touches à 12. Une énorme satisfaction pour la toute première française sacrée en au sabre.
J'avais dit que je me préparais pendant 3 ans pour ça. Je vais pas vous mentir, j'ai tellement douté. Il y a encore une semaine, je pleurais à l'entraînement parce que j'étais nulle. Et aujourd'hui, je suis championne olympique, je sais même pas comment. Tellement de travail qui s'est sorti, je suis tellement heureuse. Et oui, j'ai dit hier à Boladé, je signerai pas pour une médaille de bronze, je préfère tout tenter. C'est tellement de travail, c'était tellement dur, si vous saviez. Merci à mon coach Christian Beur qui est pas là. Et qui m'a tellement apporté pendant ces 3 ans. Et il y a mes coéquipiers de la Beur Academy qui sont là, qui ont tellement crié aujourd'hui.
Une nouvelle médaille d'or et une d'argent donc qui viennent s'ajouter aux 6 déjà glanées dans la nuit et qui portent à 8 le nombre de médailles olympiques décrochées en une seule journée. Une première depuis 100 ans pour la France. Et donc à l'issue de cette 5e journée de compétition, la France est 2e au classement des médailles avec donc 16 médailles, dont 5 en or, 8 en argent et 3 en bronze. Le Japon est en tête du classement, la Chine complète le podium.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et pendant les Jeux, on joue sur RRB.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
Deux mémoires de jeu pour gagner chaque jour un bon carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Vous connaissez maintenant le principe. Chaque jour, dans le journal du matin et dans celui-ci, nous vous posons une question sur l'histoire des Jeux Olympiques et ceux qui en ont écrit la légende. Vous envoyez votre réponse au 31-46 jusqu'à 17h. C'est l'heure du tirage au sort. Et dans le journal du soir, vous avez évidemment la réponse à la question du jour et aussi le nom du gagnant. Voici donc notre question. Il est le seul coureur de fond à avoir remporté une médaille d'or sur le 5000 mètres, le 10000 mètres et le marathon lors de la même Olympiade. De qui s'agit-il ? S'il s'agit du Marocain Hicham El Guerrouj, vous tapez JO1. S'il s'agit du Tchèque Emil Zatopek, vous tapez JO2. S'il s'agit de l'Éthiopien Haïlé Gebreselassie, vous tapez JO3 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Voilà, vous avez donc jusqu'à 17h pour envoyer votre réponse et tenter de gagner un bon carburant d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Voilà, et puis on termine cette page sport avec du football et le coup d'envoi aujourd'hui du championnat d'Océanie des moins de 16 ans.
Et oui, après les U19 il y a quelques jours, place effectivement aux U16. Les jeunes cagous sont à Tahiti et affrontent en ce moment les îles Samoa. Le match vient à l'instant de démarrer. Cette année, l'objectif est simple, terminer sur le podium pour obtenir leur billet pour le prochain mondial.
Merci Léo. Avant de refermer ce journal, une toute dernière information. On nous signale que le doc Visa, situé derrière l'ancien magasin Monsieur Brice, le bricolage est à nouveau en flammes. Toute cette zone avait déjà été incendiée au début des émeutes. Il s'agit cette fois-ci, comme souvent, d'une remise à feu. Un important panache de fumée est visible à l'entrée de Ducos et les pompiers sont sur place. Voilà, c'est donc la fin de ce journal.